Et aujourd'hui, nous sommes à Blain, dans les Pays de la Loire.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour et bienvenue dans Rendez-vous Place du Marché. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre Tour de France. Hier, Aurélie Sfèze était à Carpentras dans le Vaucluse. Aujourd'hui, on a posé nos micros à Blain, petite commune de 10 000 habitants située à une demi-heure au nord de Nantes. Le petit marché sur lequel nous nous trouvons, c'est le marché de la place de l'église Saint-Laurent, de style néo-gothique tout en granit. Alors c'est un tout petit marché, il y a quelques commerçants, quelques maraîchers, un boucher, quelques vendeurs de vêtements. Blain se trouve sur le chemin du canal de Nantes à Brest. Il ravit les amateurs de randonnée à pied, à vélo ou sur l'eau en kayak. Ils peuvent faire escale au joli port de plaisance où on déchargeait encore des denrées alimentaires, du vin, du sable au début du siècle dernier. Ici, à ce marché, viennent des voisins qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières décennies, les habitants de Notre-Dame-des-Landes, située seulement à 10 km d'ici. Notre-Dame-des-Landes était au cœur d'une bataille entre les pros et les anti-aéroports de l'Ouest. La polémique est née dans les années 60. Elle a pris fin le 17 janvier 2018, quand le gouvernement d'Édouard Philippe enterre le projet. On a voulu savoir, 3 ans après, ce qu'est devenu Notre-Dame-des-Landes. Marcel Thébault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur, vous êtes installé il y a 22 ans à Notre-Dame-des-Landes. L'État a tout fait pour vous expulser. Votre exploitation devait être bétonnée et remplacée par la piste d'atterrissage de cet aéroport. Mais vous n'avez rien lâché. Vous avez résisté avec l'aide des zadistes. Vous faites partie de ceux qui ont contribué à l'abandon de ce projet. Comment vous avez vécu ce moment où vous apprenez que vous avez gagné ?
On attendait le discours du Premier ministre avec quelques espoirs. Mais l'expérience nous avait appris à être prudents. Et si les gens se souviennent, on a attendu 6 minutes avant que le ministre, dans son discours, dise « Nous abandonnons le projet de Notre-Dame-des-Landes ».
Et vous avez ressenti quoi à ce moment-là, lorsqu'il dit ça ?
Vous savez, quand ça fait 20 ans qu'on se bat pour quelque chose, on a appris à stabiliser ses émotions. Et en fait, les émotions ont explosé quand on a vu tous les voisins organiser une grande ronde qui ramassait tout le monde au fur et à mesure sur l'ensemble du secteur. Et chacun s'est mis à suivre et cette ronde pétait de joie, quoi. Et on s'est retrouvés à la fin. Tout le monde était certains en larmes et c'était vraiment, ça y est, c'est sûr, on a gagné, quoi. Et c'est presque à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti l'émotion et laissé lâcher notre joie. Et pour nous, agriculteurs, ça veut dire la sérénité va se mettre en place, quoi.
Eh ben, on verra avec vous, Marcel, ce qu'est devenu Notre-Dame-des-Landes, ainsi que le projet de société que vous défendiez tous sur la ZAD. Oui. Vous serez accompagné d'une représentante de la nouvelle génération, une jeune agricultrice qui s'est installée dans cette partie du bocage nantais. Tous les deux, vous vous êtes battus contre la bétonisation de votre campagne. Et on vous présentera tout à l'heure un jeune homme qui, lui, végétalise la ville de Nantes. Pour ce rendez-vous place du marché dans les Pays de la Loire, nous recevrons des femmes combatives, chacune dans leur domaine, que ce soit dans la reconnaissance du métier d'aide à domicile ou pour exister dans un milieu viticole très masculin ou encore pour l'intégration des personnes atteintes de trisomie 21. Et à la fin de l'émission, on fera la connaissance de 2 chanteuses qui nous feront traverser le monde avec une empreinte zéro carbone. Ça va vous plaire, Marcel. Mais avant, on écoute Les Jolies Choses de Polo & Pan, une nouveauté choisie par Djoubaka.
Les jolis reflets dorés de ta vie.
Vous écoutez France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Blain, à 40 km de Nantes. On est face au marché, à la terrasse du café Le Lion d'Or. Nous sommes toujours en compagnie de Marcel Thébault, agriculteur et farouche opposant à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À côté de vous, une jeune femme qui incarne la relève, Amalia Mazzilli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Metz, dans l'Est. Vous êtes arrivé à Notre-Dame-des-Landes il y a 7 ans. Vous ne deviez rester que 3 jours. Et finalement, vous vous y êtes installée comme agricultrice. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Quand je suis arrivée, c'était du coup entre 2014 et 2015. Et c'était un moment où la lutte contre l'aéroport n'était pas encore gagnée, malgré 40 années déjà passées par bien d'autres avant moi. Et du coup, je me suis assez vite sentie concernée par cette lutte, par les valeurs qu'elle défendait, autant à propos de la paysannerie que de l'environnement, que d'un nouveau modèle de société qui était tenté. Et de fil en aiguille, j'ai participé de plus en plus aux assemblées générales, puis aux différentes actions qui étaient proposées par le mouvement.
Qu'est-ce que vous avez ressenti le 17 janvier 2018, lorsque Édouard Philippe annonce qu'il enterre le projet de l'aéroport ?
Ah, c'était incroyable ce 17 janvier, parce que c'était vraiment des milliers de personnes qui se sont battues pendant tellement d'années, et surtout des personnes tellement différentes qui s'étaient mises ensemble pour se battre là. Et là, ça valait le coup de faire la fête, ne serait-ce que pour célébrer cette union-là qui avait été possible. Voilà, on savait pas si ça allait durer passer le 18 janvier, mais le 17, on était tous ensemble et on l'a fêté, oui.
Parce qu'en plus, il y a eu des moments très très durs.
Moi, je n'ai personnellement pas vécu les opérations militaires de 2012. J'ai vécu les opérations militaires de 2018, qui étaient déjà très dures en elles-mêmes, mais ça, c'était suite à la victoire. Et après, forcément, si on décide de mettre ensemble des tas de gens différents, ça fait forcément des frictions, et il y a eu des moments difficiles pour faire marcher tout le monde dans le même sens, mais ça a réussi.
Marcel, faut qu'on se replace un peu dans le contexte. Il y avait eu des moments de tension, notamment avec les gendarmes. Ça avait été très très dur, notamment avec l'opération César.
C'était effectivement un choc assez rude. On a eu une centaine de blessés du côté des opposants. Maintenant, c'était quelque part tout à fait incroyable, parce que pour nous tous, c'était l'épreuve de vérité. Et tant les citoyens, on va dire les braves citoyens qui me ressemblent, se méfier un peu des nouveaux occupants et se demander comment ça allait se passer. Et autant les occupants, et on le comprend très bien, se méfier de nous en disant ils causent bien ces gens-là. Mais le jour où il y aura une situation difficile, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et en fait, ça s'est fait presque tout seul. Chacun a trouvé sa place. Il y a eu plein de solidarité vis-à-vis des gens qui étaient sur le front. Tout le monde a compris que c'était naturel qu'il y ait des barricades qui se mettent en travers des routes pour bloquer les policiers, etc. Et chacun a trouvé sa place assez tranquillement en solidarité. C'est ça qui a construit l'unité pour les années suivantes. À chaque fois, on s'est rappelé, oui, on est différents. Dès qu'il y a un sujet, en fait, on n'est pas d'accord. Il y a toujours des très longues discussions. Mais en fait, c'est ensemble. Et en 2012, c'est parce qu'on était ensemble qu'on a réussi. Le préfet pensait sincèrement qu'en 3 jours, tout serait réglé. Et en fait, 3 semaines après, rien n'était réglé. La résistance s'est mise en place dans la durée pour les années suivantes.
Jusque ce 17 janvier 2018, où vous l'emportez, c'est la victoire. Mais il se passe une chose incroyable. Quand vous apprenez que l'aéroport est abandonné, à partir de là, le noyau historique des opposants, vous vous engueulez entre vous.
On s'attendait bien à ce qu'il y ait des désaccords. On l'avait préparé. On avait fait une sorte de bible commune qui était assez bien acceptée par tout le monde. Derrière la victoire, voilà l'avenir qu'on veut dans notre microcosme un petit peu. On voudrait arriver à faire ces choses-là, c'est-à-dire continuer à se respecter les uns des autres, à garder toute la dimension biodiversité, environnement, etc., que ce soit précieux pour tout le monde, mais garder aussi la diversité humaine qu'il y a. Et en fait, ce projet-là n'a pas suffi pour nous tenir ensemble. Donc, on comprend assez bien qu'une fois que vous êtes unis derrière un objectif, l'objectif, il est réalisé. Donc, chacun reprend sa liberté de participation à l'ensemble.
Sur quoi vous n'étiez pas d'accord ?
Si on veut faire vite, je dirais que chacun se souvient qu'il y avait une route qui était bloquée de barricades en permanence. Il était important pour l'État d'abord, mais il était important pour les gens qui vivaient dans le coin que cette route se libère. Et voilà, il y avait des tas de perceptions différentes autour de ça. Une partie d'entre nous était très satisfaite d'être reconnue à nouveau comme des citoyens qui comprennent très bien les raisons de l'État, etc. Et on revient à une normalité. Et d'autres, c'est pas seulement les zadistes, d'autres disaient on a quelque chose d'un peu original qui est en cours de construction, on tient à cette originalité-là, quoi. Et avec, voilà, on savait qu'avant, on rassemblait 60 000 personnes régulièrement, chaque fois qu'on organisait quelque chose. Et là, on s'y retrouvait, on savait plus quelle capacité. Voilà. La grande manifestation qu'on a faite ensuite, on était 10 000 personnes. Donc, on s'interrogeait aussi sur nos soutiens. C'était pas très étonnant, mais on pensait être un peu mieux préparé que ça, à ces difficultés-là.
Amalia Muzzilli, racontez-nous ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous. Vous, quel choix vous faites ?
Moi, j'étais assez consciente que cette période-là, 2012-2018, c'était forcément une parenthèse sur le territoire parce que l'État n'allait pas laisser pendant 60 ans des gens s'organiser sans qu'il y ait aucun service de l'État qui puisse entrer là-dessus. Du coup, j'étais assez consciente qu'il allait falloir passer à la suite. En l'occurrence, là, une fois qu'il y a eu cette opération militaire de 2018 qui a quand même détruit à peu près la moitié des habitats de la ZAD, donc c'était pas complètement anecdotique, hein, quand même, il y a eu une espèce de proposition menace de la préfecture qui était « si vous vous installez comme paysan-paysanne officiel, inscription à la MSA, locataire des terres, tout ça, vous pourrez rester sur le territoire ». Il se trouve que moi, j'ai un diplôme agricole, donc c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron, quoi. Et je me suis installée officiellement comme paysanne, avec comme objectif aussi de, du coup, pouvoir couvrir des terres suffisamment pour faire vivre mon exploitation agricole et permettre à d'autres de vivre sur ces terres-là.
Il fallait montrer patte blanche pour pouvoir rester officiellement. Il fallait avoir un diplôme agricole, mais si on n'en avait pas, on était un peu encore clandestin sur ce territoire. Il y a une forme d'ambiguïté.
Très très rapidement, en fait, on nous a demandé de monter, mais très très rapidement, ça se compte en semaines. Un projet d'installation classique, on va le réfléchir sur un an ou deux. Là, on nous a dit, dans 3 semaines, vous nous posez des projets et que ça soit à peu près clair, carré, avec des noms. Parce que c'était ça, leur grand cheval de bataille, c'est de casser tout ce qui était collectif. Donc ça a été en semant la zizanie avec, par exemple, cette histoire de route des chicanes, d'expulsion, etc. Mais ça a aussi été que même des gens qui travaillaient ensemble autour d'un même troupeau, eh bien, il fallait une seule personne qui se déclare, une seule personne qui soit locataire des terres, à qui appartiennent les animaux, qui soit responsable de l'exploitation.
Mais les autres, ils ont quel statut alors ?
Néant. Les autres n'ont pas de statut. Et c'est ça qui...
Alors qu'ils sont là.
Alors qu'ils sont là, en fait, on vit là, on est à peu près 180 habitants sur l'ancien territoire de l'aéroport, et on est 15 à avoir un statut.
C'est quand même fou.
À titre personnel, je trouve que sur ce thème-là, ça n'avance pas très vite. C'est-à-dire que autant s'installer a été très simple. Plein de copains, copines qui s'installent dans la paysannerie disent que c'est très long à la MSA, c'est très long à la chambre d'agriculture, c'est très long partout. Nous, c'est sûr que la préfecture nous a ouvert toutes les portes. Toutes les inscriptions ont été faites en 15 jours, quoi. Facile. Par contre, c'est vrai que toutes les activités artisanales, culturelles, de transformation alimentaire, etc. n'ont jamais été reconnues comme existantes. Et donc, toutes les personnes qui font vivre ces activités-là n'ont pas de statut officiel.
Là, le terrain que vous occupez, vous êtes locataire, comment ça se passe ?
Sur la zone aéroportuaire, là, c'était l'État qui avait beaucoup racheté de terres et le conseil départemental en avait racheté une petite partie, notamment pour faire le réseau routier qui devait desservir l'aéroport. L'État voulait pas garder la propriété de ces terres-là et pas en garder la responsabilité non plus. On s'est posé comme acheteur, mais on a été débouté. On, c'est le mouvement, quoi, pas personnellement des individus. On s'est posé comme acheteur, on a été débouté. C'est le conseil départemental qui est à présent propriétaire de la totalité des terrains. Et donc nous sommes locataires de ce conseil départemental avec des baux agricoles tout à fait classiques de 9 ans. Voilà.
Et vous vivez sur place avec votre compagnon qui élève des brebis ?
On a tout à fait le droit de travailler là où on travaille, d'exploiter les terres qu'on exploite, d'élever nos animaux, mais on n'est pas supposé vivre là où on vit. Ça, c'est une question qui n'est toujours pas réglée, mais ni pour nous, ni pour nos voisins qui ne sont pas agriculteurs.
Marcel Thébault, pendant toutes ces années de lutte, c'est un projet de société que vous avez défendu. Rappelez-nous un petit peu justement quel était ce projet-là. Et aujourd'hui, qu'est devenu ce projet de société ?
Le projet qui était défendu se basait sur la bienveillance et la solidarité entre les gens qui étaient là et qui se sont engagés contre ce projet d'aéroport. Grosso modo, pour le dire de façon simple, on voulait que quelqu'un puisse venir faire un stage d'un an ou deux, voir si l'élevage, le maraîchage lui plaisait bien. Puis à un moment, hop, il prend la décision, il s'installe. Mais peut-être il s'installe en se disant que la moitié de ma production servira à des collectifs, la moitié me servira pour vivre. Chacun pouvait faire l'agriculture qu'il voulait. Et puis dans la durée, il verrait si ça tenait ou pas. Et pour des gens comme moi et mes collègues qui avions une conduite plus classique, ben, sans doute on aurait des choses à apprendre de ces innovations-là. Donc on portait cet aspect-là de grande liberté d'organisation et de respect de l'environnement. Là-dessus, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le respect de l'environnement, on est bien parti. Basiquement, on voulait sauver le bocage, on voulait sauver la biodiversité qu'il y avait. Et ça, je pense que c'est gagné parce que les baux que l'on a obtenus, tous, comportent des clauses environnementales. Et le minimal, c'est qu'aucune haie ne doit être abattue aujourd'hui, dans tout ce que possède l'État aujourd'hui ou le département. Et 80% des terres ont un engagement qui est du niveau de l'agriculture biologique.
Mais votre projet n'était pas que agricole ou environnemental, c'était aussi un projet humain. Vous avez créé des lieux comme l'Ambazada. C'est quoi au juste ?
L'Ambazada, c'est un exemple qui a été construit là ces dernières années à partir de 2016. C'est typiquement une grande salle qui a été construite en chantier collectif en invitant des gens de partout, notamment une bande du Pays Basque. Et ça sert de salle de concert, de spectacle, d'organisation de bouffe collective, de résidence pour des artistes en théâtre ou en chant.
Vous n'oubliez pas que ça soit qu'un projet agricole.
Ça, c'est un exemple culturel, mais il y a aussi une scierie, une forge, une conserverie, beaucoup de choses. Et pour moi, c'est ça qui fait vivre la campagne. Concentrer la population, les compétences, les artisans dans des villes ou des gros bourgs, qu'il n'y ait que des agriculteurs dans les campagnes, pour moi, ça ne fait pas de sens. Pour moi, ça a du sens d'avoir plein de compétences et plein d'activités qui soient bien là où les gens le veulent, quoi.
Amalia, Marcel, je vous présente Antoine Devin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous très complémentaires. Amalia et Marcel, vous êtes opposés à la bétonisation de vos campagnes. Antoine, lui, revégétalise la ville de Nantes. Vous êtes le cofondateur de l'association La Sauge. C'est quoi au juste cette association ?
Alors La Sauge, c'est une association qui a pour objectif de favoriser la pratique d'une activité agricole au plus grand nombre. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est un petit peu l'idée d'avoir une fenêtre sur le monde rural, sur le monde agricole qui est primordial et important pour alimenter les villes, justement, pour alimenter les citadins. Et donc, c'est d'essayer d'apporter un regard vers cette agriculture.
Vous, le déclic, c'est que vous venez de la campagne et lorsque vous êtes arrivé en ville, vous êtes rendu compte que les gens ne connaissaient pas des choses élémentaires sur l'agriculture.
Ben c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu rural où j'ai pu être confronté à tout simplement jouer dans un champ ou enfin faire des choses assez basiques et je me suis rendu compte que effectivement les citadins étaient un peu séparés et en fait le constat c'est que depuis plusieurs années on construit la ville un petit peu en opposition au monde rural. On dissocie complètement les deux et il n'y a pas de porosité entre les deux.
Vous étiez choqué par exemple que des enfants ne connaissent pas certains légumes?
Ah bah ça, je le vois tous les jours, parce que du coup, on a une ferme qui est pédagogique où on invite des enfants à venir jardiner et ils savent pas ce que c'est que la terre, ils savent pas ce que c'est qu'un légume à maturité, ils connaissent pas les saisons. Nous, notre envie, notre rôle, c'est de rapporter juste vraiment ces idées et ces valeurs élémentaires qui sont qu'est-ce qu'une saison, qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que la biodiversité, quel monde qui nous entoure et du coup, comment est-ce que derrière on peut faire nos choix pour consommer de manière responsable, qu'est-ce que c'est que de consommer des produits locaux et bio, qu'est-ce que c'est qu'une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement. L'idée est vraiment d'apporter ces questions-là, autant à des enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'un légume, mais aussi il y a des adultes qui savent ce que c'est que le légume, mais ils ne se posent pas forcément la question d'où ils viennent. Il y a un exemple assez clair, on fait par exemple de l'hydroponie pour montrer ce que c'est que l'hydroponie aux citadins.
C'est quoi au juste ?
L'hydroponie, c'est une culture sans terre, dans des colonnes en plastique avec juste des nutriments. Et la plupart des gens ne savent pas que leurs légumes sont produits de cette manière-là. Donc on leur montre, on leur met sous le nez, on leur raconte comment ça peut être fait de manière écologique et comment c'est fait de manière complètement dévastatrice pour l'environnement également, quoi.
Antoine Devin, votre association La Sauge a été retenue pour un projet très ambitieux à Nantes. C'est le projet Les 5 Ponts. De quoi s'agit-il ? C'est un village solidaire ?
Oui, Les 5 Ponts, c'est un village solidaire qui a l'initiative d'une association qui s'appelle Les Eaux Vives, qui a un centre d'accueil de personnes en exclusion sociale, un centre d'accueil de jour, de nuit et un centre d'hébergement d'urgence. Ils ont eu le souhait en fait de réunir tout leur centre d'accueil en un seul et même lieu et de faire en sorte que ce lieu soit inclusif et soit pas juste un lieu pour les personnes en exclusion sociale, mais un lieu pour tous. Et donc, ils ont eu l'ambition de faire ce centre d'accueil avec un restaurant, des bureaux, des logements classiques, des logements sociaux et une ferme urbaine. Et donc, ils ont proposé un appel à projet avec la ville de Nantes, la Samoa et d'autres partenaires. Donc, ils ont cherché des agriculteurs pour exploiter une serre qui est au 7e étage du bâtiment des 5 ponts.
Et c'est ce que vous allez faire ?
Et c'est ce qu'on va faire. On va produire des plants potagers et aromatiques pour les particuliers et avec les particuliers, puisque l'objectif est de faire une pépinière qui soit participative. L'idée, c'est d'impliquer les citadins dans la production agricole et également de produire des micro-pousses qu'on produira en chantier d'insertion. L'idée est du coup de pouvoir mixer les populations, d'impliquer à la fois les voisins et les citadins à la production en les mélangeant avec du coup des personnes qui seraient plus éloignées de l'emploi.
Alors vous le savez sûrement, on est juste à côté du canal qui relie Nantes à Brest. Il fait la plus grande joie des badauds. On y trouve aussi un métier en voie de disparition, les éclusiers. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Bruno Jauny.
France Inter, Antoine Lee, rendez-vous place du marché.
Vous faites quoi là, Bruno ?
J'ouvre les portes d'écluses. Pour pouvoir rentrer le bateau. Ensuite, je vais les refermer. Et après, je vais aller aux autres portes pour vider, pour obtenir le niveau en aval.
Vous faites ça manuellement. Hein. Vous avez un levier là, vous le tournez et ça ouvre la porte là.
Exact. Et après, on va falloir passer de l'autre côté parce que bah, y a pas de passerelle pour passer. Donc, on fait tout le tour. On va ouvrir la deuxième. Ensuite, je rentre le bateau. Je referme. Je refais le tour. Je referme la deuxième porte et je vais ouvrir de l'autre côté pour la même manip. Quoi.
C'est un espèce de rituel, quoi.
Oui, oui. Bah, à la fin de la journée, c'est pas mal. Hein.
Et vous faites ce rituel depuis combien de temps ?
Depuis 2009, que je suis rentré en activité ici.
12 ans ?
Ouais, c'est la 13e saison, on va dire. Je compte ça en saison.
Et ça vous plaît ?
Ah oui, oui, sinon je serais pas là. Parce que pendant 7 mois, bah, on va dire, je suis mon propre chef. Même si j'ai d'autres chefs, hein, mais je suis autonome. J'ai pas de pression, je fais mon job.
C'est qui les gens que vous croisez ici ?
Alors les gens, il y en a plein. Il y a les navigants, hein, les touristes en bateau, on a les piétons, les randonneurs, les vélos.
Et là, votre bureau, il est sympa. Hein. Vous vivez ici, là, juste devant, devant l'écluse, il y a votre maison. Et là, bah, il y a votre jardin dont vous prenez soin.
Ah oui, oui, oui. Ben là, je vis à l'année. C'est un logement de fonction, donc...
Là, sur l'eau, là, sur le canal, quel type de bateau passe ici ?
C'est principalement des bateaux de location et des bateaux privés.
Et quand il y a un bateau qui arrive, là, ils font comment pour vous dire qu'ils sont là
Ben, un petit coup de klaxon. Ou alors, ben, ils s'arrêtent au ponton, qui est dédié à ça, justement. C'est un ponton en attente d'éclusage. Et ils descendent et ils viennent me voir, sachant qu'il y a des horaires. Donc les gens savent... connaissent les horaires de passage. Donc en fonction de ça, ben, ils se pointent à telle heure.
Là, qu'est-ce qu'on fait, là, Bruno ?
Là, ben, on peut ouvrir l'autre porte, alors.
Et voilà.
Le plus que j'ai fait, c'est 27 bateaux dans la journée.
Ouais.
Ah ben, à la fin de la journée, il n'y a plus de bonhomme.
C'est pas fastidieux, au bout d'un moment ?
Non. D'accord, c'est répétitif, mais il y a plein de boulot où c'est répétitif. Mais là, c'est jamais les mêmes personnes, c'est jamais... Voilà.
Bruno, votre métier, il se fait de plus en plus rare, quand même.
Ouais, il se fait de plus en plus rare pour une bonne raison, c'est que dans beaucoup d'endroits, ben, ils automatisent. Et vous allez sur le canal du Midi ou ailleurs, dans l'Est, c'est-à-dire vous avez une télécommande à 300 mètres, vous appuyez dessus... Lorsque vous arrivez devant l'écluse, elle est prête. Vous rentrez. En fait, vous ne voyez personne.
Il n'y a pas d'éclusier.
Pas non.
C'est, tout est automatisé.
Tout est automatisé, donc c'est juste une barrière en fait, à passer. Hein. Et j'ai remarqué qu'il y a certains bateaux qui ont déjà fait d'autres canaux. Et ben, quand ils arrivent ici, ils sont heureux de venir là parce que, justement, ils ont ce rapport avec l'éclusier. Il y a une rencontre, il y a un dialogue, il y a un échange. On demande d'où ils viennent, où ils vont. Et ils sont contents, quoi. Au moins, ils voient quelqu'un. Il
bah, faut espérer que vous serez encore là pour un bon bout de temps.
Non, non, non. C'est ma dernière saison, normalement. Hein, retraite. Je laisserai la place aux jeunes, pour ceux qui veulent.
En tout cas, il faut espérer qu'ici, il y aura toujours quelqu'un.
Ah oui, oui, ici, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un ici.
C'était Billie Eilish avec Your Power. Vous écoutez France Inter, rendez-vous place du marché est à Blain, dans les Pays de la Loire. Deux nouvelles invitées nous ont rejoints. Flore Lelièvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice du restaurant Le Reflet. On verra avec vous comment vous avez réussi à intégrer des personnes atteintes de trisomie 21 dans le milieu du travail. À côté de vous, Juliette Coanet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auxiliaire de vie et vous êtes membre du collectif national La Force Invisible des aides à domicile. Vous vous battez bec et ongle pour que votre métier soit reconnu. Rappelons d'abord, c'est quoi une aide à domicile ?
Et une aide à domicile, c'est une personne qui intervient au domicile de personnes fragiles, dépendantes, qui ont un petit accident de la vie. Ça peut être vraiment de la naissance, en fait, à la fin de vie, pour tous les besoins du quotidien. On fait l'aide au lever, la toilette, on fait les courses, on fait des repas, on discute, on joue, on chante, on danse, on fait beaucoup de veille aussi. Voilà, pour que la personne se sente bien chez elle, qu'elle puisse continuer à habiter chez elle.
Juliette Coanet, au départ, vous étiez prof de danse auprès d'un public de personnes handicapées et vous avez choisi de vous reconvertir comme auxiliaire de vie. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
J'ai accompagné en fait un de mes frères et puis ensuite ma maman dans la maladie en fin de vie. À ce moment-là, j'ai rencontré l'assistante de vie de ma maman et je me suis rendu compte à quel point en fait ce métier était superbe parce que la personne qui intervient à domicile n'est pas chargée de l'histoire familiale de la personne et donc elle est vraiment vierge de tout ça et elle peut tenter des choses du coup et faire avec la personne des choses. Enfin, moi j'ai bien vu avec ma maman, jamais j'aurais proposé le quart de ce que l'aide à domicile propose à ma maman. Et ça, je me suis dit, c'est un métier qui est vraiment fabuleux pour ça, entre autres.
Aide à domicile, c'est un métier solitaire, hein, vous êtes isolé. C'est pour ça que vous avez créé ce collectif, celui de la force invisible des aides à domicile. Quel est le but, au juste, de ce collectif ?
Alors, c'est déjà de faire connaître notre métier. Effectivement, on est seul avec notre smartphone, hein, on a notre patron dans la poche. Alors, je dis notre patron parce que souvent, les directeurs de structure, ce sont des hommes, alors que nous sommes à 97% des femmes à travailler.
Voilà. Ça c'est dit.
Et on est alors pas reconnu du tout parce que les personnes en fait pensent qu'on est uniquement là pour faire de l'entretien du logement. Donc nous on voudrait faire sortir notre métier du placard à balai où on le met en général. Et puis il est très mal rémunéré. On est payé au SMIC horaire. On a des amplitudes horaires des journées de 12 heures où on est payé que 7 heures parce qu'on a beaucoup de temps de pause dans nos journées. Donc il est temps que vraiment ça change parce qu'il y a besoin de 86 000 aides à domicile avec les baby-boomers qui arrivent à l'âge des papy-boomers. Et plus personne ne veut faire notre métier. On les comprend, les collègues, les jeunes femmes, parce qu'on n'a pas de vie de famille, en fait. Et puis, on a un salaire indigne. Il faut maintenant taper du poing sur la table. Le gouvernement a repoussé la loi Grand Âge pour la 5e fois, alors que c'était une loi, soi-disant, fondamentale du quinquennat. Donc maintenant, il faut qu'on se fédère. Il faut qu'on se batte. Alors, peut-être pas bec et ongles, mais en tout cas, très fortement, pour faire évoluer les mentalités et nos conditions de travail et de rémunération.
Il y a un autre problème, c'est celui de la charge psychologique. Est-ce que vous devez accompagner souvent des situations compliquées, difficiles ?
Tout à fait. Donc ça aussi, on devrait vraiment avoir un vrai accompagnement psychologique, effectivement. Parce que quand vous faites une fin de vie, bah, c'est pas anodin. Et puis même quand vous avez souvent des personnes, notamment des personnes âgées, qui nous disent souvent, on entend cette phrase, j'en ai marre, Juliette, je veux partir, j'ai fait mon temps. Et ben ça, il faut être en capacité de l'entendre et puis pas dire à la personne, mais non, allez, madame machin, là, hein, ça va. Non, il faut l'entendre. Enfin, la personne en a assez. Tout ça, il faut être accompagné sur ces aspects-là qui sont... On fait de l'humain, quoi.
En vous entendant, on comprend bien l'importance de votre métier. Et pourtant, dans notre société, vous faites face à un certain mépris.
Ah bah totalement, hein. Je veux dire, c'est le mépris de classe. Tous les premiers de corvée, hein, qu'on a vu, qui ont travaillé pendant le confinement, hein, que ça soit les caissières, les livreurs, enfin voilà, tous ces gens qui ont continué à bosser et qui sont les premiers de corvée, les moins bien rémunérés, mais ceux qui sont toujours là auprès des personnes et pour les personnes.
Juliette Cohané, avec vos collègues, vous vous battez pour la reconnaissance de vos droits, vous venez de nous le dire, tandis que Flore Lelièvre se bat pour celui des personnes atteintes de trisomie 21. Vous êtes à la tête des restaurants Le Reflet, d'abord à Nantes, puis à Paris. Particularité de votre établissement, une grande partie de vos collaborateurs en salle et en cuisine sont atteints de trisomie 21. Comment vous est venue l'idée ?
J'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21 et pendant mon diplôme de fin d'études en architecture intérieure, donc rien à voir avec la restauration à la base, j'ai eu envie de travailler sur la création d'un lieu qui serait un restaurant qui, de par son architecture d'intérieur et son design d'objets, pourrait s'adapter à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Donc un lieu qui serait créateur d'emplois en milieu ordinaire avec un salaire ordinaire, parce que c'est rare aujourd'hui pour les personnes qui ont une trisomie 21.
Vous êtes d'ailleurs précurseur, vous êtes la première entreprise ordinaire à employer des personnes atteintes de trisomie 21.
Quand on a ouvert à Nantes en 2016, on était effectivement le premier restaurant ordinaire inclusif qui embauchait majoritairement des personnes trisomiques. C'est un peu paradoxal en 2016 qu'on ait été les premiers. Mais ce qui est génial, c'est que depuis, on voit qu'il y a un mouvement qui s'est lancé, il y a un essaimage naturel qui se fait et il y en a de plus en plus qui voient le jour, donc c'est encourageant.
Aujourd'hui, il y a combien de personnes atteintes de trisomie 21 qui travaillent dans vos restaurants, que ce soit à Nantes et à Paris ?
En tout, on a 24 salariés, dont 14 qui ont une trisomie 21.
Comment vous avez adapté les conditions de travail par rapport à leur handicap ?
En fait, on a vraiment voulu créer un environnement qui, pour une fois, s'adapte à eux, parce que c'est des personnes à qui on demande toute leur vie de s'adapter partout où elles vont. Donc, on est parti d'un constat que les personnes qui ont une trisomie 21 peuvent avoir une fatigabilité plus importante, des problèmes de motricité fine. Donc, on a tenu compte, en fait, de toutes ces caractéristiques et toutes ces contraintes, et on a pensé le lieu pour qu'ils puissent s'y adapter. Par exemple, les contrats de travail, donc ils sont tous en CDI, mais c'est des temps partiels, ils font en moyenne 20 heures par semaine. Quand ils viennent travailler le midi, ils ne viennent pas travailler le soir. Et puis, on a réfléchi à plein de petits outils, par exemple, le système de prise de commande, parce qu'on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. Donc, au reflet, en fait, c'est le client qui tamponne ses choix sur une feuille qui est prévue à cet effet. Donc, ça crée un moment ludique autour de la table pour les clients et ça permet une bonne transmission des infos en cuisine.
Et cette aventure que vous avez mise en place, qu'est-ce que ça a changé pour votre frère et pour toutes ces personnes atteintes de trisomie 21 qui travaillent avec vous ?
Alors déjà, mon frère, il a refusé de travailler. il travaille dans un ESAT depuis 14 ans maintenant et il y est bien. Et il n'était pas attiré par la restauration. Bah, par contre, pour venir manger, il n'y a pas de souci, ça c'est clair. Et pour toutes les personnes qu'on a employées et qu'on a salariées il y a 5 ans, c'est plus qu'un job. Ça leur a permis déjà une reconnaissance, d'avoir l'occasion de montrer de quoi ils sont capables. Ils ont gagné en autonomie, en confiance en eux. Ils continuent tous les jours de monter en compétences. Pour eux, c'est une fierté. Par exemple, quand ils reçoivent leur famille à déjeuner ou à dîner, ils sont hyper fiers de faire le service ou de dire que c'est eux qui ont participé à l'élaboration des plats.
Et pour vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous satisfait le plus ?
Depuis qu'on a démarré cette aventure du reflet, je me rends compte finalement que la société, elle est prête à cette inclusion. Et il suffit juste qu'on puisse provoquer la rencontre. Et une fois que la rencontre se fait, ça fonctionne en fait. Mais il faut leur donner l'opportunité d'être intégrés dans la société.
Marcel Thébault, je vous voyais écouter attentivement Flore Lelièvre. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ?
Quand on écoute Flore, en fait, et on voit qu'elle est centrée sur les autres et sur... le fait de leur permettre de vivre correctement et d'aller bien au-delà des difficultés et des cadres que leur met la société. C'est des démarches qui sont quand même parallèles à tout ce que nous, on a cherché à faire dans notre projet collectif. Je parlais de bienveillance tout à l'heure. En fait, c'est un peu le summum de la bienveillance. Je mets toute mon énergie à organiser quelque chose pour que les gens trouvent une place et soient valorisés comme on souhaiterait que chacun le soit dans cette société.
C'est bientôt l'heure de l'apéro. Dans quelques instants, on va déguster un bon petit muscadet. On fera aussi la connaissance de chanteuses polyglottes.
Rendez-vous place du marché. Antoine Lee, sur France Inter.
Mondos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne. Main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise. Et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine. Et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdaient, cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants, poème posé sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
La lune mignonne, tout m'était dû par un revers de fortune. Voilà que j'ai tout perdu de mémoire d'un mot d'apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre je fascinais le tout venant. Aïe aïe aïe, mon doux billet de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédés si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en saurait compter.
Comme si l'on pleuvait.
La providence. mignonne, à présent de pas manger mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne. La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne.
C'était Meira Andrade avec son titre « Comme s'il en pleuvait ». On est toujours à Blain, dans les Pays de la Loire. Tous nos invités sont restés. Nous avons été rejoints par les sœurs Tartellini. Bonjour.
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 Sandra et Elena, dans quelques instants, nous allons tous jouer avec vous à un jeu musical qui va nous faire faire le tour du monde en moins de 2 minutes. Mais avant, c'est l'heure de l'apéro, l'occasion de déguster le muscadet d'Aurore Gunther-Chérault et de sa mère Véronique. Bonjour.
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 Vous êtes viticultrice du château du coin à Saint-Fiacre-sur-Maine, un haut lieu du muscadet situé près de Nantes. Vous nous avez apporté quelques bonnes bouteilles de votre cru. On va goûter là. Qu'est-ce qu'on goûte ?
Alors là, du coup, on vous a ramené un comte de Saint-Hubert. C'est un millésime 2013. Pour nous, c'est notre plus beau bébé, quoi.
Je vous laisse ouvrir la bouteille.
Allez, c'est parti.
Joli bruit.
Ah, n'est-ce pas ?
Véronique, vous êtes la mère d'Aurore. C'est vous qui avez essuyé les plâtres dans ce monde des vignobles. Vous avez lâché votre pharmacie pour vous lancer dans ce milieu très masculin.
Bon, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire avoir un diplôme à moi indépendant et de relever ce challenge, car c'était un vrai challenge dans un monde où il y avait très très peu de femmes à l'époque.
Et ça s'est bien passé pour vous en tant que femme ?
Il fallait beaucoup de persévérance. Parce qu'en fait, on ne m'attendait pas du tout et il a fallu que je sois très travailleuse, très présente pour pouvoir quand même exister, en fait.
Pour vous faire accepter, en fait, par ces hommes.
Voilà, pour me faire accepter parce que ce n'était pas de tradition qu'une femme s'occupe de vignobles.
Mais vous avez dû affronter de l'hostilité de la part de ce milieu très masculin, pour ne pas dire peut-être misogyne ?
Ben, si vous voulez, je n'existais pas, donc on disait que je rabâchais beaucoup, parce que je redisais beaucoup la même chose, parce qu'en fait, je n'étais pas écoutée, voilà.
Ça devait être terrible à vivre.
C'était pas facile, mais comme je suis une personne assez persévérante et très tenace, eh bien, ça a été un très beau challenge dans ma vie, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Bon, c'est un historique, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça, dans les vignobles, mais qui n'en parlent pas obligatoirement, parce que c'est toujours très délicat d'évoquer ça.
Là, tout le monde a un peu goûté votre muscadet. Marcel Thébault, comment vous le trouvez, ce petit muscadet, là ?
Ah, très bon, très adapté au moment où l'on est.
Elena, vous l'avez goûté, vous aussi ?
Il est excellent.
Antoine ?
Oui, c'est très bon.
Véronique, vous nous l'avez dit, ça a été très difficile d'intégrer ce milieu qui était composé d'hommes virils et pour ne pas dire misogynes. En revanche, votre fille Aurore Gunther-Chérault, vous n'avez pas envie de subir ce qu'a subi votre mère.
Alors bon, effectivement, je pense que comme elle l'a dit, une génération s'est quand même écoulée. Je ne fais pas non plus partie des toutes jeunes et dernières récoltes. Bon, pour être honnête, moi j'ai vécu dans tout ça, ça fait 40 ans, donc je suis quand même obligée à un moment de me tourner vers quelque chose d'autre. Être une femme dans le milieu agricole, oui, il y aura beaucoup de choses à dire. La reprise d'une activité agricole familiale. Alors ça, il y aura une émission entière dédiée à ça. Et que, après tout, aussi le fait d'être une femme, alors il se trouve que je suis née comme ça, donc pour moi ce n'est plus une contrainte depuis bien longtemps. Est-ce que ça en était une ? J'en sais rien. Voilà, ce que je veux mettre en valeur, c'est plutôt, on a un château viticole, alors ça peut faire un peu présomptueux de le dire, mais c'est quand même double challenge, hein, parce que il y a une vraie crise agricole, on a des questions à se poser sur, en tout cas sur le vignoble nantais, qu'est-ce qu'on veut que ça devienne. On est quand même sur une vraie passation d'histoire, parce que on a des bâtisses à entretenir, etc. Et en fait, nous, ce qu'on vend quand on déguste ici un muscadet, je précise, c'est un muscadet de 2013 sur des vignes que j'ai même pas plantées, Ma mère non plus, mon grand-père non plus. Ça montre à quel point il faut, c'est de la vie plus que centenaire, un peu plus que centenaire, à quel point il faut de l'humilité. L'agriculture, en fait, c'est effectivement pas que ce côté immédiat. Il y a une vraie méconnaissance, effectivement, des gens. Je rebondis un peu sur tout ce que j'ai entendu aussi au cours de l'émission précédemment.
Oui, n'hésitez pas.
Et que du coup, ce qu'on revendique, c'est un peu d'humilité par rapport à la nature. On ne fait que passer. Donc on peut changer une courbe, aller dans un sens, mais s'il n'y a personne pour reprendre ça derrière, ça ne vaut rien en fait. Voilà. Donc je revendique, ok, j'ai un utérus, mais pas que.
Par exemple, Marcel Thébault, comment vous réagissez lorsque vous entendez Aurore dire que le milieu agricole, c'est un milieu très dur lorsqu'on est une femme? Vous qui êtes agriculteur.
Vous avez dit agriculteur, mais si on parle vrai à nos auditeurs, je suis ouvrier agricole chez mon épouse qui est chef d'exploitation.
Et... Vous êtes vraiment un homme moderne et ouvert.
Ah, je sais pas, bon, c'est une répartition. J'ai envie de dire deux choses. Je suis parfaitement d'accord avec ce que j'entends, ça me parle, et je pense que dans l'agriculture en général, on a les mêmes difficultés qu'une femme fasse sa place. On a surtout la même difficulté que des nouveaux fassent leur place. C'est tellement plus facile de s'agrandir, de se partager le voisin que d'accepter d'avoir un nouveau voisin. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on est en Loire-Atlantique, où il y a une longue histoire syndicale, on va dire de gauche pour faire simple, mais avec des gens qui ont toujours posé des questions sur l'accès au foncier, sur le droit des propriétaires, le droit des fermiers, et sur l'ouverture à la différence. C'est difficile ici, mais moi qui viens d'autres départements, je sais que nous, on a choisi la Loire-Atlantique parce que c'était là où c'était le moins difficile.
Aurore Gunther-Chéreau, au départ, vous vouliez être née dans le parfum, pour le parfum. Qu'est-ce qui vous plaît là, dans ce changement de voie, dans ce métier de viticultrice?
Alors forcément, la chose qui fait beaucoup rêver les gens dans le vin, c'est la dégustation. Donc je sais que je vais en faire rêver plus d'un, mais c'est vrai que la première analyse du vin, c'est la dégustation. Et en fait, il n'y a pas d'école pour apprendre à faire du vin. Donc il y a les analyses laboratoires, il y a la dégustation. Bon, après, il y a aussi l'expérience. La vigne, c'est quand même beaucoup d'expérience. Et en fait, ce métier-là, c'est un peu comme du flipper, c'est-à-dire que vous essayez de rectifier le tir à chaque fois, mais il n'y a pas de chemin direct. Voilà, entre une parcelle et une bouteille de vin, quoi. Donc, c'est une remise en question perpétuelle. Après, ce qui est quand même très, très sympa, c'est que c'est un métier où... Alors, c'est de l'indépendance. Vous êtes dehors, vous pouvez voyager, vous pouvez être tranquille dans votre parcelle ou dans votre cave à ne voir personne. Vous voyez aussi bien des clients particuliers, enfin pour notre part, que des clients professionnels. Enfin, c'est très riche de rencontres. Voilà, et puis il y a effectivement des challenges, sinon on s'ennuierait un peu. Il faut quand même être un petit peu entrepreneur, quoi.
Véronique, lorsqu'on entend votre fille, là, la relève est assurée. Vous êtes tranquille, là?
La grosse difficulté, c'est que c'est un petit peu chronophage aussi. Si on est passionné, on l'accepte volontiers.
On sent que votre fille, elle l'est. Hein. Comme promis, nous allons jouer tous ensemble avec les sœurs Tartellini. Vous êtes toutes les deux chanteuses. Vous avez imaginé un spectacle ludique. Pour ça, vous utilisez un accessoire, un globe terrestre que vous avez entre les mains. En un mot, en quoi ça consiste, Elena?
Nous avons placé sur ce globe des petites gommettes sur chacun des pays dont on peut chanter une chanson. L'idée, c'est que les spectateurs, on va aller vers eux, alors qu'ils soient en groupe, plus grand, plus petit, peu importe. Le spectateur va choisir sa destination, soit il laisse faire le hasard, soit il choisit une destination qui lui fait très envie.
Alors on va commencer, on va faire ça avec Aurore, par exemple. Alors là, Sandra, vous avez votre globe terrestre à la main. Vous faites tourner le globe, Aurore.
Eh bien, je vais aller au Mexique, alors.
Formidable. Le Mexique. Vous pensez au mariachi. Voilà, vous voyez un grand groupe d'hommes avec des grosses guitares. Nous sommes deux femmes et nous sommes des mariachis.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me están muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce, madurita, que me está diciendo que besa la condenada, amor sin mordisco no sabe nada, y así me lo dice mi morenita.
Marcel, à vous. Marcel Thébault, vous choisissez au hasard.
Le Japon.
Ah, le Japon.
Le Japon. Alors là, il faut imaginer un groupe de musique actuelle japonaise de femmes qui ressemblent à des personnages de manga.
dike ninie naraya, dike ninie naraya, ai sarede utsukushi zayon, non non non, dike ninie naraya, dike ninie naraya, nonna toki mo karasu koto na kare.
Allez, une petite dernière, Amalia. Vous choisissez une destination sur le globe.
Vous faites bien tourner le globe.
On va changer de destination et nous allons en Guinée équatoriale.
Nello bele la yebe sare alu bachueria. Mwale bo 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 ban sebo. Wan chawalen. O kobo elen. O boganes. O ba ula ula. Oba ella ella janan se ti a we bilava vieto a we bibele yo si beva si beva si ulo ulo to la uchare to te wela ia si beva si beva si ulo ulo to la uchare to te wela.
Merci.
Sandra Costa et Elena Bordeaux. Bon, en fait, vous n'êtes pas sœurs. Vous êtes sœurs de cœur. Vous êtes capable de chanter dans combien de langues?
Jusqu'à maintenant, j'ai une trentaine.
Voilà.
Par exemple?
Alors, la dernière, par exemple, c'était du Boubi, une chanson de Guinée équatoriale. On chante en
Kimbundu.
Voilà, Kimbundu, ça, c'est une langue d'Angola. D'ailleurs, si jamais il y a un auditeur qui parle Kimbundu et qui veut bien contacter France Inter pour nous aider à bien prononcer cette chanson, puisque pour l'instant, on n'a pas encore rencontré la bonne personne.
Justement, comment vous faites pour apprendre toutes ces langues et chanter dans toutes ces langues?
On se sert de nos oreilles. On écoute, on écoute, on écoute. On retranscrit ce que l'on entend. Et une fois qu'on a à peu près les mots en bouche, les sonorités, on s'adresse autant que possible à quelqu'un qui parle la langue et qui va nous aider. D'abord, qui va bien nous traduire la chanson, histoire que l'on soit sûr qu'on ne raconte pas des horreurs. Et aussi, pour être sûr de bien prononcer. On n'aura jamais la prononciation idéale, mais en tout cas, de s'en rapprocher au plus près.
Sandra, comment vous êtes rencontrées toutes les deux?
Alors, on s'est rencontrés lors d'un spectacle où j'étais invitée, où Elena faisait partie de ce spectacle. Et en fait, après, très vite, on est partis en vacances ensemble. Et comme nous étions déjà toutes deux chanteuses, on a commencé à chanter ensemble. Et
Sandra a des origines italiennes et je lui ai demandé de m'apprendre une chanson en italien qu'on a travaillé ensemble, qu'on a harmonisé à toutes les deux. Et voilà, ça a été le point de départ de notre duo.
Vous avez imaginé ce spectacle avec ce dispositif ultra léger, hein, juste ce globe terrestre et vos voix. Ça vous permet de vous produire un peu n'importe où?
Absolument. On peut se produire dans des festivals, sur des espaces d'attente, sur des espaces un peu libres, un peu aérés. On peut se produire sur des terrasses de café. On peut se produire, là dernièrement, on a été joué dans des établissements de soins. On a été joué dans des écoles. On peut jouer aussi pour des soirées cabaret, par exemple, parce qu'en fait, ce qu'on fait, ça ressemble un peu à du close-up, comme les magiciens. Donc, on peut faire du table en table. Finalement, on s'adresse à une personne ou à un petit groupe de personnes. Mais là, dans des salles, tout le monde peut en profiter.
On adore la proximité, on adore être proche des gens, et surtout en ce moment où, avec ce qu'on a tous vécu, l'éloignement social, et ben ça fait du bien de cette proximité, justement, de pouvoir chanter tout près des gens et de pouvoir les emmener en voyage juste avec nos voix.
Sandra et Elena, aujourd'hui, vous commencez une tournée là, le long du canal qui relie Nantes à Brest.
Absolument, on fait une tournée à bicyclette, figurez-vous. On démarre ce soir à Nord-sur-Erdre et puis ça va se terminer le 26 à Garouette. C'est une tournée qui a été organisée par notre troisième sœur jumelle, Marie, qui elle est au bureau. Elle est au bureau de notre collectif qui s'appelle Madame Suzy Production.
On vous souhaite une bonne tournée, les sœurs Tartellini.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à tous, merci au Café du Lion d'Or pour leur accueil. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert. Raphaël Pluskva m'a aidé à la préparer. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à des milliers de kilomètres. Elle sera à Saint-Pierre-et-Miquelon.